chapitre 2 de la lettre A. Ça avait été, c'était encore tellement, la fin était tout près. D'ailleurs, était-il vraiment dedans, la rupture? L'appartement était tout de même encore si plein de ces trucs à elle, de ces culottes qu'on laisse pourrir avant la casse dans un coin tout exprès comme un panier d'alpiniste qui braille, qu'au-delà vaut mieux laisser toute espérance, ou qui passerait après. Et rien ne passe plus, d'ailleurs, jamais plus. C'était sa mère, sa petite mère à lui, par la sienne, la grande, l'autre, la mère de tous, en sorte définitivement porteuse de votre crime partagé, comme un frisson d'éternité qui vous a sucé comme un os de lapin, c'est-à-dire une mère, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi, sauf une femme. Au début, quand elle trimbalait encore ce nom de femme comme un nom de jeune fille, au tout début, quoi qu'on dise de la sincérité douteuse, des élans du cœur pour ce sexe précautionneusement si peu pourvu par l'ordre des choses, il n'est pas impossible qu'elle l'ait aimé vraiment, du moins au moment de l'énoncer, intermittent, juste le temps que dure une déclaration, qui s'aime bien chanter, s'entendre chanter avec l'histoire surtout, et le train du coït y aide bien, on le sait, à jouer de la batterie, comme pour donner le poids d'un alibi à toutes les saloperies à venir. C'est bien fichu, en fait, bien équilibré le désintérêt qu'elle porte à la vie qu'elle prenne et la goinfrerie pour celle qu'elle dise donner. Bien fichu, mais pas si disjoint, somme toute. Il reste toujours la cécité absolue sur la vie dans le corps d'un autre. De toute évidence, la visibilité extraordinaire de cet amour, ça la dégoûtait bien un petit peu. Plus il l'aimait, plus elle le trouvait serpillière, pas héroïque pour un sou. Mais elle était la seule à bien voir effectivement combien elle n'était pas aimable, mais qu'elle jouait sur une toute autre affaire dans laquelle ça aurait été plus qu'encombrant un truc pareil. Alors, il lui fallait bien passer par toutes ces singeries, cette merde juste assez profonde comme il faut, pour comprimer l'angoisse terrible de celui qui se donne à elle sans retenue. Et c'est ce don-là, sans doute, qui la répugnait le plus. Non, qu'elle eut honte, bien entendu, d'être dans ces tables de multiplication menstruelle pendant que l'autre se confisait dans le bonheur. Mais c'est plutôt la générosité tout court dont elle voulait pas entendre parler. Une femme sérieuse, en somme, pas illusionnée pour deux sous sur l'amour. Elle, l'illusionniste en personne, associée au petit commerce qui répugne aux dépenses inutiles. Elle s'en voulait même un petit peu de mettre ça dans sa vie. L'amour, la seule chose dont elle veuille entendre parler que dans les livres, ça risquait de les lui gâcher un petit peu. Mais après tout, une fois qu'elle l'aurait eu, son marmot, sa petite chose, sa tête réduite Givaro qui vous aime en crever aussi grâce à l'éternité. Ah, l'éternité, la merde cachée derrière le soleil. Eh bien, pourquoi elle aurait eu en lire d'autres, des livres? Le souvenir suffirait bien. Il y avait qu'en vérité, elle se sentait immensément trahie, la petite mère, blousée. Un mensonge tellement énorme qui tapissait dans l'ombre le couloir des siècles. Pas un murmure. Comme si personne ne l'avait jamais remarqué, que même celle qui était au courant depuis le moment où ça s'était révélé dans leur chair l'avait tue. Jamais elle avait craché le morceau, terrassée à n'en pas douter par la colère ou la panique. Et elle, maintenant que cette vérité s'était donnée, croisée en pleine vitesse comme des phares blancs dans une nuit de campagne, bien noire, elle savait qu'elle ne moufterait pas non plus. Elle dirait jamais rien. Elle reniflerait la rage qui la déchirait. Elle en mordrait les draps sans faire péter les dents plutôt que de partager ce secret-là. Maintenant, quand elle en croisait d'autres dans la rue, des encloquées silencieuses, le bide pape fiero en avant, elle savait quoi lire dans leurs yeux. Elle les aurait bien giflées toutes, ou peut-être embrassées en chialant, allait savoir, c'était comme un réseau filaire chassieux qui les unissait toutes par le silence, couvercle des mises en garde étouffées à jamais. Ce qu'elle aurait voulu, tellement, mais qu'elle savait aujourd'hui impossible, c'était d'être pleine, enfin, pleine comme elle l'avait jamais senti au creux de sa vie à rien, pleine alors qu'en vérité la petite boule morphale, le bouillon saccadé de la mitose qui l'habitait lui faisait un trou terrifiant dans le corps. Et c'était pas la bouffe qui l'engloutissait à sa place comme un ténia, c'était elle ce trou-là. Et plus rien jamais viendrait le cimenter. Trahie donc par sa mère menteuse comme toutes les autres, par le silence éternel des mères qui avaient pris devant elle cet air rempli à satiété quand elle se vidait comme des plaies. Marie, dont les yeux s'étaient eux aussi éteints dans la toile des espoirs crevés et de l'appétit plus jamais pareil, était fermement décidée à trouer l'autre con à son tour. Et ça avait pris tout son caractère de fermeté et d'implacabilité quand, à la naissance du marmaillon, loin de s'arranger, elle ne vit pas le sentiment de promotion tant attendu. Elle commença à bien envisager son avenir de matrone comme une punition à partager à trois. Restait évidemment à œuvrer avec assez de finesse pour au moins conserver l'estime d'un parc de glandouilleurs que Marie envisageait déjà comme autant de babysitters à venir. Après avoir donc extorqué juste ce qu'il fallait de sperme à Guillemot, qui devenait de jour en jour plus mou et plus inoffensif, le plus dur serait de garder encore suffisamment dans les meubles, près d'elle, pour que l'éjection du père passe bien en public et pas trop dégueu auprès des copines, si peu regardante soit-elle sur ce genre de protocole. Ce qui la rassurait, j'imagine, c'est qu'après les jus de couilles et les jus de cœur dont elle lui avait pas laissé une goutte, il restait encore le jus de cervelle à exprimer en 2-3 mois le jeu du papa et de la maman. Pourquoi aurait-il résisté à ça, lui dont le principal organe de communication avec son encloqué était encore et toujours l'abandon. Au moins, elle aurait pu l'appeler mon amour ou ces trucs si sucrés et si finalement lourds, énormes, qu'il présente quand même avec trop de violence ce qui était dès le départ absent du projet, qui sentait encore l'usurpation du verbe aimer. Elle se flattait d'être encore pudique quand même. Alors désormais, papa suffirait bien, le papa, ton père, et ce serait même la dernière petite touche au carnage. Il se rendait bien compte, Guillemot, chaque nuit, dans la chambre d'écho, des braillements de la petite chose apeurée à jamais, que la maman le suçait déjà presque plus, et qu'elle comptait bizarrement plus ce goût délicieusement dépravé pour l'enculade au registre de leur coït. C'en était bien fini. De quoi ? Des préliminaires. Ça lui manquait bien un peu. Il soupçonnait au passage un glissement progressif dans la chiennerie. Mais c'était trop tard maintenant. Il aurait fallu quoi ? Lui demander ? Et la perspective de perdre ces quelques fissures d'atomes autour desquels se composait encore sa vie, lui semblait, bizarrement, plus atroce que d'avoir déjà perdu tout le reste. Alors, après le dégraissage des pipes, du trou du cul et de tout, la peau morte du papa s'était desquamée pareil. Et elle l'avait maintenant, le double, qu'elle s'imaginait dans la totale confusion, la mort qui marche et qui tarderait pas à parler. La manche dans le cul, tout dépendait plus que du talent de la ventriloque. Trouver la paix du père sans le père et les couilles toujours là qui se tordaient pour l'instant sur quatre pattes, rien que pour elle, futur pas de loi, tout doux, plein de miel, au rythme de l'amour de maman. À vrai dire, elle n'avait rien quitté, elle, dans l'affaire. C'était conclu. Pendant que Guillemot se ramassait, un peu plus, chaque jour, abasourdi, fini, l'amour perdu, et le verbe aimer surtout, elle fit juste ce qu'il fallait, aller chialer à quelques endroits stratégiques pour peaufiner le travail. Et présenter au monde entier le fruit vivant de l'amour perdu. Elle nous le tendit, chacun à notre tour sous les narines pour qu'on observe bien le côté exceptionnel de la chose qui, à vrai dire, et ça me surprenait assez peu, disposait du juste nombre de pattes d'orifices et d'yeux déjà bien plein d'angoisse dans le tumulte pour être classé à coup sûr dans la famille des hommes. Aucun doute là-dessus, pas de quoi peindre une nativité de plus. Je me demandais bien ce qui donnait à tous, autour du marmichon affolé, ces allures de paléontologue excité devant l'os tant rêvé du chaînon manquant. Pour elle, le produit de ses fouilles allait au moins la dispenser pendant un moment de s'imaginer d'autres désirs, une carrière, une ambition quelconque, et le problème régulièrement pesant lourd de son manque de conversation était réglé. J'ai eu un moment de gêne quand elle nous brandit la première fois son permis de construire procuratif, qui gesticulait si peu qu'on se demandait contre quoi elle l'assommait, contre l'amour maternel sans doute. Et je l'écartais de mon champ de vision d'un mouvement peu considératif, c'est vrai, mal habitué au bonheur, je voyais déjà le pire d'ici en n'imaginant même pas de remède pour lui. Son premier aperçu du monde baignait pas vraiment dans le soleil et la joie contemplative. Et l'alignement de nos carcasses malades, à boucher en tétant nos bières, les vapeurs de beuverie, cette haleine solidaire qui unifiait dans une seule respiration et l'abrutissement le plus bavard, une trentaine de chenilles peu regardables, voilà qui lui forgerait dès les premiers jours un solide sens de l'humanité et peut-être déjà une troublante perspective d'avenir. En le regardant tétouiller, la couée de miel du biberon, je me surpris à ralentir mes lampées par crainte du mimétisme. Tous autour semblaient avoir fait de même. Et les autres, en dehors des conventions qui poussent à accueillir tout nouveau venu dans la société des hommes, avec au moins assez d'ardeur pour dégonfler la trouille de la mère d'avoir fait un cornichon de plus, mes potes, le collier d'âme en perdition volontaire auquel je m'agglutinais un peu plus chaque jour, ils suçaient à la paille le bouillon originel duquel ils avaient à peine sorti la tête un jour pour refermer aussitôt les paupières. Rien ne nous convenait mieux que le gazouillis, la chance inespérée d'illuminer un peu l'habitude d'être né en s'émouvant d'un âge où la question se posait peu dans la cohue des informations toutes neuves. Et il n'aurait pas été nécessaire de botter les culs de tous ces chimpanzés pour les voir regrimper aussi secs aux lianes ovariennes de leur chère maman. Moi aussi, singe, si peu habillé d'à peine une couche survivante de vanité, je sentais la chaleur me colorer la gorge et les joues. Et je me suis rarement tant haï qu'en sentant gagner l'appétit du babil qui soumettrait ma langue à la dépravation. Ça vous tire de si loin, cette merde, qu'il faut en foutre un sacré paquet pour pas tomber tout prouteux à son tour dans la confiture marmaillante, dans le cœur bien moelleux du renoncement général. Chevaux de bois morts, entraînés par le nombril dans la centrifugie de ce manège navrant. On rosissait à vue d'œil, nous déchargeant de 30 années perdues et de toutes les autres en vue, l'ivresse des profondeurs et lâcheté infinie. La seule fois de ma vie où j'avais à ce point senti le partage de la chair comme un animal rassuré par l'odeur d'un cul de la même espèce s'abandonne à lécher indifféremment, tour à tour, ses poils et ceux du frère trouvé, ça avait été en présence d'un mort. C'est bizarre, j'imagine, mais je m'évoque souvent maintenant le pont sentimental qui joignit ce moment où, dans la touffeur acide d'une salle de dissection, je m'étais pris d'une familiarité douceâtre, émouvante, pour le corps fondu d'un vieillard acéphale assis sur une table métallique, le tour de cou plissé en bourrelet tenu par des pinces, des graisses jaunes racornies marquant la coupure fascinante juste au-dessus de la pomme d'Adam. Et celui où Marie nous présenta son morceau d'éternité, si rose et si démuni. Je ne sais pas ce que ça me dit exactement, mais aucun homme n'a jamais été mon prochain comme cela.